Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est parti. Cool. Coucou, c'est Mimi.
Coucou, c'est Fab.
Et bienvenue dans ce
Boys Club.
C'était sensuel.
J'ai ASMR, c'est oui. Voilà.
The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle qui vous parle de masculinité, où tous les 15 jours avec Fab, on reçoit un mec qui nous cause de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial.
Un peu spécial.
Voilà. On est avec Anthony.
Bonjour.
Salut Anthony. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Alors Anthony, cher auditeur, chère auditrice, a priori tu ne le connais pas, et avec Fab, on le rencontre aussi pour la première fois. Et c'est une histoire assez particulière par rapport aux autres invités, puisque tu es venu à la base par un commentaire YouTube que tu as laissé sous un épisode du Boys Club, sous celui de Guillaume, si je me souviens bien.
Il me semble. C'est sûrement celui-là, oui.
Où tu nous reprochais de n'inviter que le même type de personnes. Est-ce que tu peux préciser ce que tu voulais dire par là?
Ce que je voulais dire par là, c'est que j'entendais beaucoup de propos par rapport à la masculinité, qui avait une vision, on va dire, féministe de la chose, qui considérait que l'homme, c'était être privilégié, une chose que on entend beaucoup, mais dans laquelle je suis pas d'accord. Et il y avait aussi, par rapport aux histoires d'harcèlement sexuel, et ce genre de choses, que, pardon, et que ben généralement on parle toujours seulement des cas des femmes victimes, on présente toujours l'affaire comme étant sous cet ordre-là. Par rapport à vos invités, j'avais vraiment l'impression, voilà, que ça, c'est une chose qui se passe à sens unique, ce qui est ce qui ne correspond pas à mon expérience de vie.
Et du coup, on t'a proposé de venir pour porter cette parole qui toi qui selon toi manquait au podcast, et tu as accepté. Merci beaucoup.
Non, mais on peut dire surtout merci beaucoup parce que c'est régulièrement qu'on a des commentaires comme ça qui viennent nous dire oui, alors vous devriez faire ceci ou vous devriez faire cela, et vos invités ils sont pas comme ceci, ils sont pas comme cela, et systématiquement on colle le même message qu'on t'a à poser, mais on n'a jamais de nouvelles. Et toi, t'as dit bon bah ok. En gros, ton message suivant c'était bon bah maintenant que j'ai dit que je gueulais, il va falloir que j'assume et que j'y aille, quoi. Donc merci beaucoup d'être venu nous parler, parce que c'est hyper important, je pense, que tu viennes raconter ton histoire et pourquoi tu penses que nos invités ne représentent pas une vision de la masculinité à ton sens, en tout cas. Et nous, on n'est pas du tout à se dire que c'est nos invités précédents qui ont raison et que toi, t'as tort, tu vois, surtout pas. Au contraire, on veut montrer toutes les formes d'histoire qu'il peut y avoir, et la tienne vaut tout autant que celle des autres, quoi. Donc merci beaucoup.
De rien.
On va commencer par la première question. Tu t'y attends. Ça veut dire quoi pour toi, Anthony, être un homme?
C'est une question assez compliquée. Je vais commencer par pas me faire d'amis. Je vais dire savoir une bite. Pour moi, c'est la chose la plus simple. Parce que bon, après, on peut essayer de voir, à dire qu'il y a des comportements particuliers, mais c'est jamais vrai pour tout le monde, même s'il y a des tendances générales. Donc, pour moi, c'est le seul point, pour l'instant, que je trouve que, on tombe dans le vrai, quoi. Après.
Donc est-ce que c'est un point commun que tu te sens partager avec tous les précédents invités du Boys Club au moins là-dessus?
Oui, là, il n'y a pas de problème.
Pour l'instant,
là-dessus,
a priori, oui. Ils avaient tous un pénis. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Du coup, tu mentionnes que le premier point de désaccord que tu avais avec les précédents invités que tu as mentionné, c'est le fait que pour eux, l'homme est en position de supériorité par rapport aux femmes, et que toi, tu n'es pas d'accord avec ça.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses, du coup? C'est quoi ton opinion sur la question?
Alors, mon opinion sur la question, c'est que on fait une grosse erreur en parlant de ça entre une moyenne et les cas individuels de chaque personne. Donc oui, en moyenne, les hommes s'en sortent mieux que les femmes. Là, bien sûr, là-dessus, je conteste pas. Mais pris individuellement, c'est complètement faux. Une moyenne, ça fait pas tout l'éventail des vécus. Et on constate aussi une chose, ben, quand on fait partie de cette grande partie des hommes qui ne sont pas privilégiés, parce qu'au final, les hommes blancs, privilégiés, tout ça, c'est qu'une petite partie des hommes qui sont bien au-dessus, mais la plupart, ben, c'est pas du tout le cas. Et on voit quand on commence à toucher un peu aux basses classes sociales, on constate un effet pervers de la chose, c'est qu'à tout le temps être considéré comme étant privilégié, on se retrouve avec des contre-coups, on se retrouve que ben, dans tout ce qui est association d'aide, on est, par exemple, quand on commence à avoir des problèmes de logement, des problèmes sociaux, on va dire, on n'est pas prioritaire parce qu'il y a des personnes qu'on considère comme étant ben, plus en difficulté par rapport à leur sexe, par rapport à leurs origines. Et c'est... Ça crée une rupture, en fait, je trouve, qui est par rapport à beaucoup de monde qui gueule comme moi, bon, qui sont un peu plus moins gauchistes que moi, on va dire.
un peu moins gauchistes. Plus gauchistes. Je suis perdu.
Disons que, oui, je sais que je représente une minorité dans une minorité où, quand on commence à gueuler contre le féminisme, tout ça, en général, ça s'accorde avec un discours d'extrême droite. Et quand ça s'accorde avec quelqu'un comme moi qui a milité pour extrême gauche, c'est quand même assez rare. Donc, je sais plus où j'en étais.
Prends ton temps, il n'y a pas
de course et tout.
Tu veux boire un verre d'eau, je te sens un peu ému et tout. Prends le temps de respirer.
Oui, ça peut être intimidant en plus, l'exercice du micro et tout. Mais alors, qu'est-ce que tu appelles gueuler contre le féminisme? Parce que. Bah pour moi, le féminisme que je vois, on va dire, un peu institutionnalisé, les associations, etc., bah elles parlent plutôt des généralités et de faire avancer la cause des femmes en général pour arriver à l'égalité avec les hommes en général. Donc en fait, il y a plein de cas individuels qui sont pas représentés, je pense, des deux côtés, parmi les femmes aussi. Et du coup, en fait, c'est quoi le féminisme contre lequel tu dis gueuler et comment tu gueules Je sais pas si ma question est claire.
Alors, en fait, pour moi, c'est il y a un problème derrière qui est dans l'idéologie même, celle de lutte contre le patriarcat, et qui a tendance, voilà, à catégoriser, à considérer donc homme privilégié, femme opprimée, qui pour moi, voilà, c'est une surcouche au plus, mais ça ne Mais les différences sociales, voilà, elles emportent là-dessus. En tant que voilà homme prolétaire, j'ai plus en rapport avec une femme de la même classe sociale que moi qu'un homme qui fait partie des riches.
Donc tu penses que c'est d'abord la lutte des classes qui est prioritaire et que est-ce que tu penses que si un jour on vient à bout de la lutte des classes et du coup, je sais pas, contre le patronat ou la bourgeoisie? On aura résolu les inégalités de genre?
Déjà, je pense que dans les inégalités de genre, il y a deux choses à voir. Hein. C'est une égalité n'est pas forcément une injustice. C'est que, voilà, on l'a constaté, par exemple, avec. Pour ceux qui veulent faire les études vers certains métiers, on voit que, par exemple, en Scandinavie, qui est un pays beaucoup plus égalitaire que nous, les différences de métiers sont encore plus fortes que chez nous. Donc il y a des tendances entre hommes et femmes, si on prend d'une manière générale, évidemment dans les cas particuliers on peut pas voir, mais il y a quand même des tendances à aller vers certaines choses qui créent derrière des inégalités obligatoirement. Et ça ne fait pas forcément une injustice. Et après il y a un problème justement, ce qu'on voit c'est que on les voit qu'en tant qu'injustice et en tant que féministe il y a une tendance à ne voir que par rapport au point de départ des femmes. Et donc, tout ce qui est dans l'autre sens, tout ce qui peut, c'est ignoré. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des mouvements MRA. C'est parce que...
C'est les activistes pour les droits des hommes, les men's rights activists.
Oui.
C'est l'équivalent de ce qu'on appelle en France les masculinistes.
Ah, j'aime pas le terme de masculiniste.
En tout cas, c'est le nom qu'on leur donne, et d'ailleurs qui se donnent eux, non, je pense.
On a tendance à préférer sans le in en plus, donc masculiniste.
Okay.
Parce que, en fait, masculiniste, ça, c'est construit d'après masculinité. Et c'est pas par c'est pas pour la masculinité qu'on se bat, c'est pour une histoire de droits des hommes, comme le féminisme se bat pour les droits des femmes. Donc voilà, il y a deux styles d'antiféministes, on va dire, hein, ceux qui sont voilà réac, qui veulent un retour à l'ancien ordre établi, et ceux comme moi qui considèrent que le féminisme n'est pas un combat pour l'égalité, mais un combat pour voilà pour les femmes, pour c'est une lutte.
En fait, si c'est un combat pour les femmes, c'est un combat féministe.
Oui, non, mais oui, le féminisme, c'est considéré que voilà, c'est la question de l'égalité n'est considérée que du point de vue des femmes par rapport aux hommes.
Okay.
Donc voilà, et pour moi, il y a des manquements dedans. Il y a, en voyant que d'après ce spectre-là, on oublie plein de considérations.
Mais du coup, pourquoi est-ce que le masculisme serait antiféministe et pas simplement compatible avec, tu vois, pourquoi est-ce que ce serait pas deux combats, par exemple, se battre pour la, alors on en parlera, tu l'as évoqué, on en parlera plus en détail plus tard, se battre pour la reconnaissance des hommes victimes de violences sexuelles, c'est pas anti se battre pour la reconnaissance des femmes victimes de violences sexuelles, ça peut être des choses qui avancent ensemble dans la même direction finalement. Pourquoi est-ce que ça doit être forcément de l'antiféminisme ? C'est ça que je comprends. En fait, je vois pas l'antiféminisme dans tes propos.
En fait, l'antiféminisme dedans, c'est que ben là, je vais commencer à devoir parler de mon vécu, que beaucoup d'autres qui se disaient MRA, que j'ai pu discuter avec eux, ont eu des expériences à peu près similaires. C'est donc la première fois où j'ai commencé à essayer de parler des agressions sexuelles que j'avais vécues auprès de féministes. J'ai eu le droit à un déferlement de haine, de culture du viol, pour être clair et net, parce que j'ai eu le droit au de toute façon un homme ça peut pas se faire violer parce que c'est des porcs qui ont tout le temps envie. J'ai eu le droit au pire que tout, tu payes pour ce que les hommes font subir aux femmes. Donc bon, bien sûr c'est peut-être un cas extrême qui ne correspond pas à ça, mais voilà.
Oui, mais il n'empêche que c'est ton vécu. Je pense que moi et Fab et beaucoup de féministes, j'espère la majorité ne cautionne pas du tout ce que voilà ces messages qu'on t'a envoyés, mais il n'empêche que c'est ce que t'as vécu et du coup.
Et c'était t'as entendu ça dans des assos, c'est ça, ou dans quel cadre exactement t'as entendu ça, parce que si c'est sur des réseaux sociaux par exemple un peu véhément, comme par exemple Twitter, c'est des discours qui peuvent s'entendre. Est-ce que c'était où exactement?
Non, c'était pas sur Twitter. Je suis pas fou au point de traîner sur Twitter. Non, disons que il y a eu la fois où j'en ai parlé ouvertement pour la première fois, hein, ça a été via internet sur un très célèbre site féministe que je ne nommerai pas. Ce n'est pas vous.
Il y en a d'autres. Non, en vrai, tu peux le nommer et au pire je couperai au montage parce que je suis intrigué.
Alors le pire déferlement de haine que j'ai eu, hein, la première fois, c'était sur Crêpe Georgette. Première fois où j'ai dit moi aussi j'ai été victime, j'ai eu un déferlement de haine et c'est moi au final qui me suis fait virer par la modération.
Ok, donc pour parler un peu plus.
Après, évidemment, on reste pas sur une mauvaise expérience. J'ai été voir. J'ai essayé un peu d'évoquer le sujet par rapport à des finis que je connais parce que j'en connais quand même pas mal dans la vraie vie. J'ai été testé dans plein d'autres endroits qui étaient réputés pour être plus modérés et il y avait toujours cette même hostilité à ce sujet-là, quoi. Le sujet, que ce soit des violences conjugales ou des agressions sexuelles, dès que t'essayes de dire il n'y a pas que les femmes, tu te tapes un déferlement de mépris, voire de haine. C'est voilà, t'essayes de voler la parole aux vraies victimes. Après voilà, on a le droit au maltir, t'essayes de te victimiser. Oui, un peu, oui, c'est vrai.
Mais du coup, pour revenir à la racine de tout ça, est-ce que tu veux bien nous raconter ce que t'as vécu ?
Alors, il y a eu plusieurs expériences. Alors, on commence du pire ou...
Commence comme tu sens, comme tu veux.
Alors, on va y aller par ordre chronologique. Alors, quand j'étais gamin, donc je ne pourrais plus trop vous dire l'âge exact, entre 6 et 10 ans. Donc, tout ce que je sais à peu près, encore de l'époque, hein, c'est que c'était quand ma grande sœur était en crise de puberté, on va dire. Donc, elle a 6 ans de plus que moi, donc après, on voit à peu près là ce que ça devait lui donner. Et donc, ben, elle avait dans l'idée d'expérimenter la chose et je lui ai servi de, on va dire, ben, de sextoy pendant plusieurs mois où elle venait me chercher dans le soir dans mon lit. En plus, elle faisait ça devant mon autre sœur un peu plus jeune qu'elle. Et moi, ouais, je me souviens que à l'époque, voilà. Je me planquais sous les lits pour l'éviter. Je savais pas trop de quoi il s'agissait à cet âge-là, surtout qu'il n'était pas encore question de faire de l'éducation sexuelle aux jeunes à l'époque. Donc voilà, quand on te tombe dessus comme ça, bah, tu sais pas, t'es jeune et au final, ben, tu acceptes la chose parce que t'as pas le choix. Puis bon, il y avait les chantages ou avec des histoires de sucettes que j'ai toujours pas eues. De si t'en parles aux parents, voilà, c'est à toi qu'ils vont en vouloir, ainsi de suite, quoi. Donc, en fait, cette expérience, plus le fait que derrière, oui, je me suis quand même, en tant que personne proche de la gauche, je me suis orienté vers le féminisme, et là, tu réalises que d'autres histoires que t'as eues, là, la combinaison des deux, tu fais, ouais, bah attendez, c'est pas la seule fois. Il y a aussi. Donc là, une fois suivante où là je vais prendre un cas particulier, c'est pas quand une femme se retrouve complètement bourrée un soir et que elle se réveille à côté de quelqu'un qu'elle connaît pas, la tendance va être à faire ah ben voilà, j'ai été abusée, alors que ben moi ça m'est arrivé comme beaucoup d'autres, et là le truc qu'on se dit en premier lieu c'est oh j'ai merdé. Alors que le seul coup que t'as envie de faire le lendemain, quand tu vois, tu fais, oh là, faut que je me barre le plus vite possible, tu t'enfuis, t'as honte de ce que t'as fait, mais c'est toi qui as merdé. Alors que t'étais complètement ivre mort, tu sais même pas comment tu t'es retrouvé là. Et donc là, on voit déjà que avec cette expérience, on voit déjà qu'il y a, avec les histoires des féministes, que tu vois derrière qui font, ouais, ça c'est un viol, ça c'est un viol. Quand c'est une femme qui arrive, tu te fais. C'est là que tu commences à réaliser qu'il y a une perception, en tant qu'homme, des violences sexuelles qui n'est pas la même que les femmes, et elle est grandement due à comment on en parle tout le temps. Donc on en parle tout le temps en tant que l'homme agresseur, la femme victime, et donc le fait que ben, ce soit toi qui sois en position de victime, même si là, bon, je l'étais peut-être pas, hein, j'en ai aucun souvenir. Ça fait que tu refuses la chose comme telle. C'est ah non, bah non, c'est moi qui a fait le con, quoi. Donc et là ça me rappelle une histoire un peu plus vieille, donc c'est pas sur moi, mais je pense qu'elle est importante d'en parler, celle-là aussi. C'est donc j'avais un ami en fin de lycée qui avait une petite amie, et donc on le voit un jour, il fait ah, mais pourquoi tu viens manger à la cantine avant, depuis que t'as une petite amie, avant tu le faisais pas, il nous avait sorti. Bah, c'est parce qu'elle veut toujours coucher avec moi, moi j'en ai marre, trois fois par jour c'est trop, quoi, à chaque fois que je rentre chez moi, il faut y aller. Et quand je veux pas, elle me fait une crise de jalousie, elle me tape dessus, elle me fout des coups de couteau, donc il nous montre ses bras plein de taillades par rapport à ça. Et là, tu vois que notre réaction comme d'ado qui ont été un peu formatés dans toute cette idée-là, ça a été de se marrer. Ça a été de faire ah, attends, en plus, elle est bonne ta copine. Franchement, un peu le coup de t'as un peu de la chance là-dedans. Donc, voilà, par rapport à ça, tu vois, j'avais pas pensé à mes autres et à mes expériences d'avant, mais ça fait réaliser que voilà, il y a une conception qui influence vachement dans le vécu, et je suis sûr que derrière, que elle-même, elle était persuadée d'être dans son bon droit, parce qu'il y a toujours l'homme a tout le temps envie, l'homme il a plus envie que la femme, donc elle qui avait plus envie que son mec de coucher, forcément dans sa tête ça devait être ah ben oui, si j'ai plus envie que lui, c'est que lui il me trompe, c'est qu'il va coucher ailleurs. Et c'était d'ailleurs c'est ce qu'il disait, et c'était pour ça qu'il se prenait des coups de couteau, parce qu'à chaque fois qu'il voulait pas coucher avec elle, c'était t'as été couché ailleurs.
Ok, elle tirait des conclusions absolument active. Absurdes. Ok. Et est-ce que, en fait, t'as parlé de la réaction des femmes féministes, si j'ai bien compris, à qui t'as pu te confier. Est-ce que tu t'es confié à des hommes, bah, comme là, t'as ton pote au lycée, est-ce que tu t'es confié à des hommes, alors qu'ils s'identifient féministes ou pas, sur ce que t'as vécu, est-ce que les réactions étaient différentes ?
La réaction est compliquée. Non, parce que bon, pour l'histoire là que j'ai évoquée
tu couches sans même le savoir. Il y a eu des témoins, des potes, voilà, c'était une soirée arrosée, ils ont vu ça. Ils considèrent ça comme une bonne blague, hein. De toute façon, je pense que vous aviez déjà fait passer une vidéo là-dessus. Là, le viol, c'est rigolo. En tant qu'homme, oui, c'est rigolo. Le viol, ça fait des bonnes blagues. Si tu considères pas ça comme rigolo, tu vas en baver parce que c'est toujours. Ah, tu te souviens, toi, la fois là où tu t'es tapé le monstre. Ah, non, mais j'avais pas envie ce jour-là. Ah, mais...
Oui, il n'y a pas une conscience du fait que c'est potentiellement grave, que ça peut être. Quelque part entre une souffrance et un traumatisme.
Bon, après, cette histoire-là, moi, je la vis pas comme un traumatisme.
Non, et comme
ça me fait réaliser beaucoup de choses par rapport.
Oui, c'est plus la différence de traitement dans les histoires qui t'a marqué, ou quand c'est une femme ivre-morte qui se réveille et qui sait pas c'est qui le mec à côté. On part du principe qu'elle a. Était victime de viol puisqu'elle ne se souvient pas avoir pu consentir et elle ne se sentait pas en état de consentir. Quand c'est un homme qui se réveille après une soirée ivre-mort et qui a une femme à côté de lui, on part du principe que c'est lui qui a outrepassé le consentement de l'autre. Mmh. C'est plus ça. Et pour ce que t'as vécu avec ta sœur, est-ce que t'en as parlé à tes parents à un moment ?
Non.
Ils sont toujours pas au courant
Non, ils sont pas au courant.
Et avec elle, t'en as jamais reparlé ? Ou avec ton autre sœur, peut-être ?
Non, bah voilà, c'est une histoire vieille de 25 ans. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis.
Et pour toi, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts parce que t'es encore hyper. Enfin, et puis je le comprends, c'est pas. Je suis pas en train de juger en disant ça, mais ça te prend alors que ça fait 25 ans que ça s'est passé. T'as toujours ce truc là quand t'en parles, quoi.
Ben, c'est disons que c'est. Il y a le truc que j'en parle parce que c'est la première fois que je le dis à haute voix, pas derrière un clavier. Hein, forcément ça aide pas.
Voilà, ah bah merci pour merci pour la confiance, pour la confiance, hein,
confiance. Parce que... Et voilà, c'est en fait ce qui m'a posé problème là-dessus, c'est que bon, moi voilà, je vais bon, ça a peut-être un peu traumatisé des choses, mais c'est pas l'impression que j'ai. Mais alors, quand j'ai eu les réactions de haine, quand j'ai voulu en faire, ouais, ben, les hommes aussi, regardez, moi, par exemple, qu'on m'a tombé dessus, c'est après, je me suis dit, comment ça se passerait dans la tête d'un mec, voilà, qui est vraiment traumatisé par ça, qu'en souffre réellement, que, ah, et c'est là où j'ai compris que, ben, à force de toujours véhiculer ce message que, ouais, ce message, voilà, que c'est les hommes les agresseurs, les femmes les victimes, alors que bon, au niveau des chiffres, on n'en est pas. Si on prend ceux que nous en tant que masculistes, on considère vrai, c'est pas ceux du viol, parce qu'il y a un problème de définition dedans. Je pense que
oui. Alors dans la loi française, le viol c'est une pénétration qui est effectuée par menace, surprise, contrainte. Et violence. Donc il y a déjà tout le problème de pénétration. Pendant longtemps, une pénétration qu'on t'oblige à performer, donc c'était un pénis, n'était pas considéré comme un viol, c'était seulement une pénétration subie. Après, même si on prend le champ des violences sexuelles, c'est-à-dire viol, agression et harcèlement, je crois, on est quand même sur la moitié d'hommes victimes, mais on est sur plus que 2%
de femmes victimes, mais on est plus de l'ordre de 25% des victimes à être masculins. Une personne sur 6 à être une femme dans les auteurs. Donc ça paraît moins, mais après il faut mettre en relation que rien qu'en France, il y a 800 000 cas par an. Donc ça fait 200 000 hommes qui se font agresser sexuellement par an.
Quand bien même il n'y en aurait que deux, bah, ça vaudrait déjà le coup de permettre à ces deux d'avoir de l'aide.
C'est ça, c'est-à-dire que je pense que d'une manière générale, la libération de la parole autour du viol... Alors, féminin, puisque effectivement il y a plus de victimes, va aider aussi. Et on voit sur Mademoiselle, on a d'abord commencé par parler de violence sexuelle envers les femmes, pour après assez vite basculer vers. Donc on avait parlé de cette fameuse vidéo. Le
viol, c'est vraiment hilarant.
Le viol, c'est vraiment hilarant, pour amener les gens à se rendre compte aussi. Mais je pense que comme disait Mimi tout à l'heure, les deux combats sont très, enfin, doivent se faire en parallèle, en fait, et pas forcément l'un contre l'autre, même si c'est pas l'expérience que t'as pu vivre, toi, j'en suis désolé.
Après, oui, les combats doivent se faire en parallèle, mais il y a un discours de fond contre lequel on doit combattre, qui est dans le discours féministe. Voilà, c'est le fait que la simplification, homme agresseur, femme victime. Et donc il y a beaucoup d'autres cas. Je m'intéresse surtout aux violences genrées, donc aux violences sexuelles et aux violences conjugales, parce que je vois qu'il y a toujours une volonté. Alors c'est pas forcément une volonté, mais il y a toujours une manière de minimiser les faits quand c'est pas des femmes les victimes, de minimiser les nombres, d'aller chercher les nombres qui font le plus choc et qui sont forcément ceux où il y a. Voilà, on va chercher le 98% d'hommes dans les violeurs, mais on précise pas que c'est issu d'une étude qui n'a interrogé que des femmes victimes. Donc, si on interroge des hommes et des femmes, on passe à 94 ou 95, je sais plus, % dans les violeurs, mais avec la définition qui dit que seul le pénétrant est un violeur. La nouvelle définition, elle est que depuis le 6 août, depuis la loi Schiappa.
Donc, il y a des avancées et je pense que, en fait, oui, comme tu dis, libérer la parole en général autour du viol, ça a commencé beaucoup par des femmes, sur Mademoiselle en tout cas. Je pense que en expliquant le consentement et en expliquant c'est quoi consentir, il y a plein de gens, hommes comme femmes, qui ont pris du recul sur des expériences passées et qui ont dit « Ok, donc là, en fait, j'étais pas... » Alors, soit j'étais trop ivre ou trop... En tout cas, pas en maîtrise de moi-même pour consentir, soit, en fait... J'ai dit non trois fois et j'ai fini par dire oui, mais peut-être que j'aurais juste dû pouvoir dire non une fois et cool. Plein de choses comme ça. Peut-être que ton pote du lycée, en fait, il voyait ça comme un truc relou de ma copine me fait chier. Peut-être qu'il le vivait déjà comme une souffrance. Peut-être qu'entre-temps, il a pu lire des articles ou des témoignages qui lui ont fait prendre conscience de la potentielle gravité de ce qu'il a vécu. Le problème, et je pense que c'est ce qui sous-tend, alors sans les excuser, mais pour les expliquer pour des auditeurs et auditrices qui sont peut-être pas très versés dans le mouvement féministe, en fait, je pense que ce que tu as vécu, c'était sous-tendu par l'idée que beaucoup de gens n'évoquent les violences sexuelles faites aux hommes que pour court-circuiter le discours sur celles faites aux femmes. En gros, des gens qui, toute la vie, vont s'intéresser à aucun sujet contre les violences sexuelles, qui ne militent pas, qui ne sensibilisent pas, etc., qui juste, quand on dit « les femmes sont victimes de viols », viennent dire « oui, mais les hommes aussi », pour un peu détourner l'attention. Et du coup, ça peut être frustrant parce que c'est un peu « ok, mais tu fais quoi dans ta vie pour ces hommes victimes de viols ?» Rien, donc en fait, laisse-nous parler des femmes, tu vois, pour l'instant. Et du coup, peut-être que ton message a été lu comme ça, mais c'est complètement con parce que en fait, pour un mec qui te dit et les hommes aussi, tu peux pas savoir si tu le connais pas, si c'est juste sur internet ou dans une asso. En tout cas, tu connais pas la personne. Tu sais pas ce qu'il a vécu. Tu sais pas si lui ou des proches sont concernés. Tu sais pas si, en fait, peut-être qu'il passe ses journées à parler à des gars sur internet pour soutenir d'autres victimes. Donc, c'est surtout bête de partir du principe qu'il est là pour faire chier.
Surtout que pour le coup, là, tu racontais ton histoire. Tu disais que.
Oui, il y a le truc où on s'imagine toujours que voilà, c'est pour court-circuiter. Mais il faut prendre aussi en considération quelque chose, c'est que les hommes, ils parlent pas facilement de leur vécu. Et qu'il y a souvent des sous-textes dedans qui sont pas perçus. Quand moi, je suis persuadé, voilà, une fois que j'ai discuté avec beaucoup d'autres qui gueulaient avec moi, Emera, tu vois que derrière le, ouais, on parle pas assez des hommes victimes, mais il y a souvent. Et il faut prendre ça en considération, c'est que ça arrive souvent quand même que on parle pas assez de moi, de ce que j'ai vécu. J'ai l'impression qu'on renie complètement le fait que voilà, quand un homme est victime, il faut quand même voir que si on prend les chiffres, ça fait, il y a beaucoup qui se contredisent, mais on est au moins à une personne sur 10 chez les hommes qui a vécu au moins une agression sexuelle dans sa vie. Donc, quand il y a un discours du « ouais, on parle que des femmes, on parle que des femmes », il faut pas forcément voir ça comme étant une façon de faire « ah, les féministes, vous faites chier », mais c'est juste, il faut y voir une frustration dans le fait que vous êtes qu'on s'aveugle, qu'on invisibilise quand c'est pas des femmes les victimes. Et après il y a aussi par exemple je vois un autre cas, c'est on voit souvent des hommes, voilà, quand on en parle entre nous, arriver en disant ouais, un homme ça peut pas se faire violer, voilà, s'il bande c'est qu'il a envie. Et après quand tu discutes avec eux, quelquefois, là, tu arrives à remonter sur des cas où ils te racontent un cas particulier où je me souviens, où c'est le mec qui commence, il nous arrive, ouais, c'est des conneries, une femme, ça peut pas violer son mec, voilà, s'il bande, c'est qu'il a envie. Après, il commence à nous raconter que sa femme, des fois, la nuit, quand elle a envie, elle lui grimpe dessus, puis elle l'emmerde, elle l'empêche de dormir jusqu'à ce qu'il veuille bien, qu'il se sente sale le lendemain. Mais non, mais c'est pas un viol. Et donc, voilà, c'est... Il y a à la fois...
Il y a cette vulnérabilité aussi, où on a du mal, je pense, les mecs, d'une manière générale, à venir dire « Ok, en fait, j'ai été vulnérable. » Et encore plus, quand t'es vulnérable face à une femme, c'est difficile dans la société actuelle d'être capable d'avouer ça avec, je mets des guillemets. C'est peut-être ça dont tu parles, non ?
Je me perds un peu dans ce que je dis aussi. Donc, puis, là, ce cas-là, c'est que je parle, c'est qu'il faut... Voilà, il faut faire... Il faut... Quand c'est, il faut pas forcément se focaliser sur ce qui est dit au-dessus. Il y a des raisons derrière. Et, voilà, le mec qui dit un homme ça peut pas se faire violer, ça peut pas se faire violer. C'est possible qu'il y a un déni derrière de son propre vécu. Voilà, un homme qui vient dire ouais vous parlez pas assez des hommes victimes, il y en a marre, on a l'impression que vous parlez que des femmes. C'est peut-être pour dire, il y a des chances quand même que ce soit pour dire, moi aussi j'ai été victime. Et j'ai l'impression qu'on m'invisibilise complètement dans cette histoire.
Et du coup, dans les cercles et les forums MRA sur lesquels tu traînes, est-ce qu'il y a des mises en place d'actions, tu vois, d'associations par exemple? Parce que je pense que ce serait bien d'avoir des associations dédiées aux hommes victimes de violences sexuelles et que ça reste plus simple si c'est des hommes qui les gèrent, puisque on est dans le même genre et que ça peut être plus compliqué pour un homme de se confier à une femme et de parler de trucs vulnérables, etc. Il me semble qu'en France, il n'y en a pas à l'heure actuelle. Il n'y en a plus. Il y en avait une qui a fermé. C'était pour les hommes victimes de violences conjugales.
Il y a SOS Hommes Battus qui a eu beaucoup de problèmes avec des associations féministes aussi.
Comment ça? Il me semblait que c'était fermé à SOS Hommes Battus.
Ils n'ont pas eu de subvention, rien, ouais. Voilà. Bon, après, il y avait une histoire qu'ils n'en voulaient pas, ils ne voulaient pas être dépendants. Ouais. Bon, c'est une histoire, c'est donc cette association-là avec le geste. Le geste, bon, il faudra que je retrouve le nom exact, je pourrais vous le redire. Donc, ils avaient décidé pendant les semaines de l'égalité homme-femme d'organiser des colloques sur les hommes battus. Et donc, ils ont le droit à une descente de foudre où une association féministe a fait « Ah, c'est du masculinisme !»« ils essayent de voler la parole aux femmes !» Et ils ont fait la technique qu'on fait toujours quand on veut empêcher un discours d'être tenu, ils ont fait du trouble à l'ordre public. Et donc, quand trouble à l'ordre public, on annule. Après, derrière, les élus ont fait « Ah, il y a eu du trouble à l'ordre public avec ça, donc vous ne serez plus jamais invités. » Alors qu'au final, c'était des personnes qui étaient venues spécifiquement pour les gens d'empêcher. Et voilà, on a remonté dessus et on voyait qu'il y avait des groupes qui s'avaient organisés pour justement empêcher ça. Alors après, la volonté derrière, comme vous dites, il y a l'impression que quand des hommes viennent parler de violences subies par des hommes... que c'est pour voler la parole des femmes, et en fait, souvent, c'est juste parce qu'il y a un manquement dans le discours, quoi.
Et du coup, est-ce que tu vois se monter des potentiels organismes de soutien, ou après, des espaces de parole, ou je veux dire, au-delà de sur Internet, tu vois?
Après, sur Internet, déjà, que les espaces de parole ont vite tendance à tomber dans la pure misogynie, hein. Il y a un contre-coup on commence par dénoncer des agissements qu'on n'est pas d'accord et on finit par tomber dans la même chose. Donc voilà, j'ai conscience que maintenant c'est très très compliqué d'avoir une discussion posée là-dessus avec des féministes parce que voilà, derrière il y a le nombre de fois où on m'est tombé dessus et j'arrive toujours avec un a priori elles vont pas accepter la parole.
C'est un peu comme ça que tu nous as abordé d'ailleurs. Voilà. Tu pensais pas qu'on te répondrait.
Et j'étais pas sûre que tu nous répondes non plus, l'un dans l'autre. Une bonne surprise pour tout le monde. Enfin, pour toi aussi, j'espère qu'on fait mentir les peut-être craintes que tu avais avant de venir parler à des féministes. Il y en a des biens.
Non, ouais, c'est comme je le dis, c'est pas voilà, c'est pour moi c'est un problème dans certains fondements du discours. Que oui, il y a énormément de personnes bien intentionnées qui ont pas envie de faire les hommes, on s'en fout. Alors nous on se bat que pour les femmes. Mais derrière il y a un discours structurel qui voilà celle du par exemple le sexisme, c'est du sexisme que si c'est systémique. Il y a quand même.
Tu m'as perdu sur systémique. Hein,
mais... oui, le coup du sexisme systémique ou le racisme systémique, en gros, c'est que ça se fait que dans un sens. Je simplifie beaucoup, mais c'est ça.
Bah. En gros, c'est toute l'idée que le sexisme anti-homme n'existe pas, ce qui est un propos. Alors, on a un article dessus sur Mademoiselle, c'est un propos qui est tenu par beaucoup de féministes. Si c'était à refaire, j'écrirais probablement cet article avec plus de pincettes, mais en gros, cela dit, l'article le dit, c'est juste qu'il est un peu provoque dans sa façon de le dire. En fait, le sexisme, c'est un système. Il n'y a pas du sexisme anti-homme et du sexisme anti-femme, il y a le sexisme, et il s'applique différemment aux femmes et aux hommes. Donc, pour une femme, ça va être... pour donner des exemples vraiment très bateaux, pour une femme, ça va être épiler. Ah bah toi, t'as l'instinct maternel, tu vois, tu vas avoir un contact facile avec les enfants, donc peut-être que c'est plus simple que tu t'arrêtes de travailler. Et pour un homme, ça va être toi, t'es plutôt leader, tu vois, tu devrais monter en compétences et t'occuper d'une équipe. Et on est sur des exemples de sexisme entre guillemets bienveillant, qui dit pas t'es qu'une merde parce que tu as tel organe génital, mais il y a des exemples aussi malveillants de un homme, ça va être un prédateur sexuel, et une femme, ça va avoir très peu de libido parce que finalement ça aime pas vraiment le cul, les femmes, ça se sauve.
Il y a toujours un effet miroir. Il y a toujours, si on dit que les hommes c'est des prédateurs sexuels, d'ailleurs on va dire que les femmes, elles sont frigides, les mères s'occupent mieux des enfants, donc on va leur accorder plus facilement, ce qui va créer de la discrimination envers les pères. Il y a toujours, ça n'existe pas que dans un sens. Il y a toujours un effet retour. Mais après, il y a une tendance à dire « Oh non, mais ton histoire de sexisme anti-homme, au final, qu'est que du sexisme ?» C'est juste de essentialiser une personne selon son sexe, lui donner des traits. Et donc derrière, avec cette histoire de sexisme systémique, il y a quand même une volonté derrière de... Enfin, quand j'ai une volonté, pas forcément, mais il y a un discours derrière de « Tais-toi. Tais-toi, t'es un homme, t'es privilégié. » C'est t'es un homme, tu peux pas être victime de sexisme, c'est seulement envers les femmes. Et si t'es victime de sexisme, c'est juste du sexisme envers les femmes, c'est envers ton côté féminin. Alors que pas forcément, quoi. Le fait que les pères aient moins facilement la garde des enfants, c'est pas de la discrimination envers leur côté féminin.
Oui, non, ok, je vois ce que tu veux dire. Ou en fait, parce qu'il y a un discours selon lequel le sexisme envers les hommes, c'est juste de la misogynie, c'est-à-dire que on va dire à un homme pleure pas. En fait, ce qu'on lui dit, c'est pleurer, c'est féminin. Être féminin, c'est mal. Donc oui, okay. Pleure pas. Donc c'est de la misogynie. Alors, il me semble qu'en tout cas, les chiffres en France pour les pères qui ont moins souvent la garde, c'est qu'ils la demandent très peu. Donc il y a aussi ça, et que généralement, quand les deux parents la demandent, on est sur une garde alternée dans la plupart des cas.
Alors les chiffres sont que. Oui, c'est essentiellement dû au fait que les pères ne le demandent pas, mais quand il y a conflit, dans 2 cas sur 3, le juge se range du côté de la mère. Mm-hmm. Enfin, après, il faut voir ce cas spécifique. Par exemple, la mère peut demander une garde partagée, le père la garde exclusive. Donc on voit que les juges ont tendance à refuser, à être pas très d'accord pour la garde partagée, être plutôt pour la garde exclusive. Mais si tu prends les cases, il y a quand même... même si c'est que 10% des divorces, il y a quand même un côté où le juge va plutôt facilement se ranger du côté de la mère.
On peut remonter à l'œuf ou la poule, si tu veux, voilà. C'est-à-dire que pourquoi les pères
ils
demandent pas
moins,
plus.
Donc on leur accorde moins parce que sociétalement, comme dans.
Après, il y a un côté où on se met derrière. Beaucoup de pères sont persuadés qu'ils sont de mauvais pères. Parce que c'est un peu dit dans l'histoire que c'est les mères qui savent s'occuper des enfants, les hommes ils sont là pour amener la thune, et donc ça joue sur le fait qu'ils demandent moins. Ça joue aussi sur le fait qu'ils demandent moins, c'est que beaucoup sont persuadés que s'ils la demandent, ils l'auront pas.
Oui, je suis
et
d'accord.
Que ça coûte extrêmement cher un divorce. Donc il y a un côté, il y a de la discrimination donc au niveau des juges, mais il y a tout un modèle qui s'instaure derrière pour que cette discrimination existe. Et pour qu'elle soit renforcée par le fait que ils demandent pas.
J'aimerais bien qu'on parle de toi.
Ouais. Oui, je sais, c'est compliqué.
C'est marrant parce que tu nous avais prévenu dans un mail.
C'est très difficile de parler de soi, oui.
Parce que là, ça fait 40 minutes qu'on enregistre.
On a quand même
parlé plein de choses. On a parlé énormément de toi et de justement. Merci beaucoup encore pour ta confiance de ces histoires qui t'ont, en tout cas, qui font que t'es l'homme que t'es aujourd'hui, en fait. Mais c'est vrai qu'en général, ce qu'on aime bien faire aussi dans The Boys Club, c'est parler de d'où te vient. D'où te vient ce parcours, en fait, qui fait qu'à un moment donné, t'es devenu l'homme que t'es aujourd'hui. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup parlé.
On a beaucoup parlé du fait que de mon antiféminisme, qui n'est pas réellement un antiféminisme. C'est juste
Pourquoi tu dis antiféminisme, en plus ?
Parce que... Tu passes ton temps à gueuler contre des discours tenus par des féministes, donc quelque part, c'est de l'antiféminisme, même si, dans le fond... Il y a la même volonté d'égalité, mais le discours...
Parce que tu te mets dans le même sac de plein de mecs qui sont...
Pour le coup, vraiment réa, qui est vraiment anti-égalité.
Quand tu dis ça, t'es quand même chez nous en train de discuter, tu vois. Il y a plein de mecs qui ne viendraient pas chez nous en train de discuter.
Voilà, c'est comme je dis, c'est un choix qui... C'est pas un choix, ça s'est imposé. Ça s'est imposé par rapport aux histoires de rejet que j'ai dit. Okay. C'est quand tu vois que ce discours-là, il n'arrive pas à être entendu dans le cadre, ben tu vas en dehors du cadre et après tu tombes dans la confrontation alors que c'est pas le but au départ. Mais après de fil en aiguille, voilà, c'est plus tu te radicalises, plus ça se radicalise en face et voilà, ça augmente. Mais
alors que finalement, quand on se pose autour d'une table pour discuter entre un masculiniste et deux féministes, ça se passe bien.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
On n'est pas là pour se taper dessus, et en plus, je pense vraiment qu'à la fin, on a les mêmes buts.
Oui.
On est juste pas d'accord sur comment y arriver, quoi. Et encore, on n'est pas tellement en désaccord.
À quoi tu ressemblais quand t'étais petit ?
J'étais complexé parce que j'étais petit et maigre, ce qui n'est plus du tout le cas pour maigre.
T'es un grand gaillard, quoi.
Ouais, je fais un bon poids, ouais. Oui, voilà, j'avais un gros retard de croissance. Donc, quand je suis rentré au collège, je faisais 25 kilos.
Donc, ah oui. t'étais une tige, quoi.
Ouais, ouais.
Une brindille.
Oui.
Et il y avait un souci de santé derrière ou c'était juste ton métabolisme qui était comme ça?
C'était que je me nourrissais exclusivement de fruits.
t'aimais pas le vert, c'est ça?
Non, mais on avait un jardin, il y avait des fruits qui poussaient, je bouffais tout ce qu'il y avait dedans, après j'avais plus faim pour les vrais repas, donc ce qui fait que je grossissais pas.
Ok.
Et bon, et après, oui, il y a eu des
problèmes. T'avais un très bon transit, ceci dit.
Donc oui, après, derrière, il y avait des problèmes hormonaux, hein. J'ai eu des hormones de croissance que j'ai commencé à grandir que quand on les a arrêtées.
Ok.
Ok. Peut-être que ça a marché, du coup.
On ne sait pas.
À son rythme.
Donc... Très bon.
Tu faisais du sport, t'avais des hobbies.
Ah, le sport, non, pas du tout.
Quel petit garçon t'étais, en fait? Alors, je cherche à savoir.
Le sport, moi, j'ai été élevé dans une famille où le sport était considéré comme un truc de gros bof.
Ok.
Donc, oui, voilà. C'était les activités, genre lecture et tout. J'ai commencé à lire très tôt. Et voilà, oui, il y a. Il y avait, quand j'étais petit, un côté un peu petit bourgeois, on va dire. Où, voilà, ouais, bon, ça, voilà, le sport, c'est pour les bourrins, c'est pour les neuneux. Voilà. Cultive ton cerveau, ça fonctionnait très bien. Et.
T'étais doué à l'école?
Ça dépend ce qu'on appelle doué à l'école. Ah
bah, t'avais des bonnes notes. Est-ce que t'étais bon dans le système scolaire, on va dire.
Alors, j'ai été doué, mais pas du tout travailleur. Ce qui n'a pas changé. Et voilà, c'est quand on a des facilités, qu'on a une avance sur tout le reste de la classe, qu'on sait lire avant même d'entrer au CP, on glande derrière.
Ah bah, ça n'apprend pas la discipline.
Voilà, ça n'apprend pas la discipline.
T'es en rythme de croisière tout le long, t'en branles pas une, ça se passe bien.
Et voilà, quand tu peux te permettre de pas en branler une, de faire le jeu avant cours et de derrière, que tu dois te battre pour pas être premier de la classe, parce qu'être premier de la classe, c'est un truc de fille. Toi, tu veux pas, voilà, tu veux être deuxième pour pas premier, tu vois, c'est la loose premier.
Ok.
Tu vois, il a dit que c'était un truc de fille d'être premier de la classe. T'as vu comme les mecs se tirent vers le bas?
T'avais des potes?
Ouais, pas beaucoup, mais ouais.
Plutôt des garçons, des filles, un peu mixtes?
Non, les filles, non, j'ai jamais fréquenté à part en maternelle. Donc, oui, c'est... Après, je suis quelqu'un de norme, ça se voit peut-être pas trop, mais de très timide, très renfermé. Je me suis beaucoup battu contre ça. Et voilà, c'est donc... tu te retrouves très facilement exclu des entourages féminins quand t'as pas, surtout au collège, tout ça, où il y a un petit côté, voilà, faut être un bonhomme. Ou, voilà, quand toi t'es introverti, que t'oses à peine adresser la parole à des personnes voilà, que t'es pas déjà proche avec, bah, tu te retrouves avec juste une bande de 2-3 potes, tous des mecs, parce que voilà, vous avez trouvé que vous avez une passion commune. Et ça se forme autour de ça, mais...
C'était quoi cette passion commune?
Le jeu de rôle.
Ah.
Oui, le bon jeu de rôle.
Et les jeux vidéo aussi, ouais.
Bah, c'est cool, c'est marrant que t'as mis longtemps à en parler, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui était peut-être un peu stigmatisé quand t'étais gamin? C'était pas... Enfin, je me doute que c'était pas très cool.
Ouais, et c'est pour ça que ça m'intéressait.
C'était par rejet des conventions.
Oui, voilà. Quand j'étais gamin, voilà, j'écoutais du métal, je jouais aux jeux de rôle. Tout ce qui était mal vu, je trouvais ça cool. Tout le côté, voilà, un peu paria. C'était voilà, il y avait le côté, oui, être un peu à la marge. Ça m'attirait, quoi.
Et comment ça s'est passé en grandissant? Est-ce que t'as fait des études supérieures?
Pour les études supérieures, je me suis retrouvé confronté à un cas où il fallait s'assumer. Ce que j'ai pas su faire.
Comment ça?
Ce qui fallait, c'était, je me suis retrouvé, voilà, t'étais le petit génie de la famille, celui qui est toujours en avance sur tout. Donc, tu sais t'en sortir tout seul, quoi qu'il arrive. Tu te retrouves, ouais, bah voilà, va remplir tes dossiers de fac. J'ai été en chercher une demi-douzaine, j'en ai renvoyé aucun.
Ok, t'as bloqué à ce moment-là et...
C'est le moment où faut se prendre en main, où faut aller de l'avant. Ben oui, j'ai bloqué à ce moment-là et après, ben, ça s'est pas amélioré.
T'as pas osé aller chercher de l'aide sur le moment où tu savais pas où la chercher?
C'est assez vieux, donc je saurais plus trop dire, mais... Et voilà, il y avait franchement le côté derrière, c'était... toi t'es intelligent, tu peux t'en sortir. Et je suis peut-être un des gens, mais derrière, oui, ben, j'étais pas très mature, je le suis toujours pas trop. Hein. J'ai pas mal de, on va dire, pas on va le dire jusqu'à dire phobie sociale, mais quand même, se mettre en avant, ça a jamais été mon truc. Voilà, aller vers les choses, j'ai eu un côté très passif. Et voilà, le moment où tu dois te débrouiller seul, où fait ouais, bah voilà, c'est à toi de choisir. T'es grand, bah tu te retrouves à ne rien choisir.
Du coup, est-ce que tu t'es mis à bosser ou t'es resté?
Après, il y avait aussi une autre histoire derrière, c'est que voilà, je suis parti d'un milieu petit bourgeois et après on est, il y a eu le chômage de mon père. Et on a dégringolé sur l'échelle sociale. Et c'est là, il y a un moment où même c'est là que j'ai vu un peu la grande différence entre moi et mes sœurs et ce qui a un peu fait la différence entre mes femmes. C'était le côté elles quand elles ont eu ça, c'était le oui il faut je vais faire assistante sociale pour pas que les autres vivent ça. Moi dans ma tête ça c'est non, moi je veux être un gros enfoiré pour pas que moi je revive ça. Et pas que ma famille, si j'en ai une, vive ça. Et bon, j'ai pas trop réussi à être un enfoiré.
Ça veut dire quoi un enfoiré pour toi? Parce que ça veut dire plein de choses, enfoiré. Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est celui qui fait là, un peu la caricature du patron, quoi, du grand patron, celui qui pense à son intérêt financier, qui exploite les gens. Le côté gauchiste, hein.
On se refait pas. Tes parents étaient plutôt de gauche aussi, j'imagine.
Ouais.
Plutôt de gauche.
Ça dépend du départ.
Ils étaient petits bourgeois quand même.
Petits bourgeois. Donc, ouais.
Oui, c'est très très à gauche au départ. Maintenant, c'est plus trop le cas. Hein. Bizarrement, on est plus à gauche quand on a un niveau de vie correct que quand on est tout au fond là. Il y a un peu une tendance à jalouser. Donc, ce qui fait que ça part sur les Arabes, ils ont tous les trucs, nous on a rien.
Ils sont plutôt en train de virer à droite, c'est ça que tu es en train de dire.
Virer extrême droite, ouais.
Extrême droite. Hein.
Mais bon, c'est tragique après, ce chemin.
C'est un chemin voilà, qui.
Bah, c'est la défaite de l'extrême gauche. Bon, après, on peut rentrer dans le.
Parlons de la défaite de l'extrême gauche, c'est le sujet de ce podcast.
Mais en fait, j'aurais aimé. Parce que tu disais, tu aurais aimé être. Ton objectif, c'était d'être un enfoiré, comme tu dis. Donc, j'imagine de monter ta boîte, de créer ton entreprise, etc. C'est un truc que tu as tenté de faire, c'est ça ou...
Non, parce que, voilà, je suis...
On est toujours sur le truc du CP en fainéant, c'est ça
ou... Ouais, c'est, voilà, ça a commencé au CP à me partir dans la mauvaise direction.
C'était quel genre d'homme, enfin, c'est quel genre d'homme ton père? C'était quel genre de père quand t'étais petit?
C'est un peu compliqué de parler de mon père. Alors, à chaque fois que je dis que c'est compliqué, on a l'impression qu'il y a des problèmes de mésentente, mais alors pas du tout. C'est juste que dans ma famille, c'était ma mère qui dirigeait. Donc, c'est elle le chef de famille. Mon père était soumis. Il se faisait même accessoirement taper dessus. Et voilà, après le divorce, il est parti vivre loin et j'ai coupé les ponts avec. Mais c'est pas une histoire de, il y a pas d'histoire de conflit derrière. C'est juste l'éloignement géographique qu'a fait, quoi.
T'avais quel âge quand ils ont divorcé tes parents?
Ça correspondait plus ou moins à l'entrée au collège.
Ok. Ouais, donc 10-11 ans par là.
Ouais.
Et t'as jamais repris contact avec ton père?
Si, bah, des fois il essaie de reprendre contact avec moi, mais bon, après, disons que je serais plus qu'au lien. Voilà, si je vais en contact, pour moi, même s'il y a aucun conflit avec, pour moi, c'est devenu un étranger, quoi, mais voilà, c'est, vraiment, je tiens à insister, il n'y a pas de conflit sous-jacent, il n'y a pas de abandon du père. Non, c'est juste que on n'a jamais été non plus vu que c'était pas le chef de famille, c'était lui qui était obligé. Il n'y a pas eu non plus de liens forts qui se sont faits avec. Alors que, par exemple, il y a des liens très conflictuels avec ma mère.
Mais tu veux en parler?
C'est quoi les embrouilles avec ta mère? C'est quoi les bails?
Oh, mais le côté j'ai longtemps été un petit con et que...
Ta mère, elle disait que t'étais un petit con, c'est ça? Ou toi, tu considères que t'as été un petit con avec ta mère?
Il y a les deux.
Ok.
Il y a les deux. Il y a un moment où voilà, Quand elle voyait que j'étais un petit con, qui bossait pas, qui foutait rien, et que donc voilà, elle me le renvoyait dans la face. Et au bout d'un moment, même ses compliments de sa part, pour moi, ça sonnait comme des reproches masqués. Donc voilà, c'est même si souvent que c'était le cas, c'est genre ah, tu vois que tu peux y arriver. En gros, tu dis que je fais jamais l'effort, quoi.
C'est un peu ton interprétation, c'est
oui,
ça.
Oui, voilà. Mais après, je sais que c'est mon interprétation des choses. Hein, mais... Et voilà, j'ai eu un rapport très conflictuel avec elle. Puis avec mon père, bon, pas de problème, hein, vu qu'on se fréquente pas.
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Ouais, voilà.
Et avec les filles, ça s'est passé comment? Comment, enfin, par rapport à, je suis introvertie au collège et quand t'es introvertie et que tu joues au jeu de rôle, bizarrement les meufs, c'est pas trop la passion de ton quotidien. T'en es où maintenant par rapport aux meufs ?
Alors, comment dire ? Je pourrais limite me dire que je suis asexuel parce que je voilà, j'ai jamais eu de véritable relation, en tout cas où j'étais consentant. Et voilà, c'est ben, bizarrement quand tu n'as pas le côté qu'on reproche toujours aux hommes, que j'avais parfaitement intégré, qu'il ne fallait pas être dominateur, qu'il fallait pas aller trop de l'avant. Mais bon, derrière le côté sûr de soi, je l'avais pas. Donc ben quand t'as pas ces critères de masculinité, c'est très facile de se retrouver complètement à la page et bon au bout d'un moment t'acceptes ton sort quoi.
Et... Tu t'es résigné à ne pas intéresser les femmes et
ouais voilà
parce qu'en soi tu vois je connais plein de mecs pas mal comme toi qui sont pas sûrs d'eux, qui ont pas des passions qui ont des passions de nerd tu vois. Qui ont les cheveux longs, qui écoutent du métal, j'en connais, tu vois. Et bah, généralement, ils ont des meufs. Alors, c'est peut-être pas les plus coureurs de jupons du monde, mais ils ont des meufs. Et bah, ça se passe plus ou moins bien comme tous les couples, tu vois. Mais c'est pas forcément une fatalité. Mais je me dis que si tu décides que c'est une fatalité, bah là, du coup, ça en devient une. Tu vois ce que je veux dire ?
Voilà, bah après... voilà, c'est une fatalité. Après, voilà, il y a le côté où, voilà, c'est quand, en tant qu'homme, si tu vas pas vers l'avant pour avoir des relations avec des filles, à moins d'être vraiment le beau gosse ou celui qui a un très bon statut social, ça va pas se faire dans l'autre sens. Donc, y a des timides qui ont été contre leur timidité. Mais bon, moi, derrière, le fait d'aller devoir aller en discothèque pour draguer, parce que bon, pas beaucoup de meufs dans l'entourage, j'avais pas envie, j'avais plus l'impression de me renier qu'autre chose si je me mettais à faire ça. Et à côté, et voilà, oui, j'aurais pu aller contre le fait que, c'est le zéro absolu. Mais quelque part, ça aurait été en faisant des choses, en ayant des comportements qui ne me correspondent pas. Et ça, j'ai pas voulu.
C'est très compréhensible. T'as essayé les applis de rencontre ou d'autres?
T'as fait une tête vraiment comme non. Si.
T'as vraiment fait
non. Ça. Oui, c'est vraiment genre une tête en mode pourquoi je ferais ça.
Ouais, voilà, non, mais
c'est une... En fait, je comprends que tu puisses en être réticent, mais quand tu dis effectivement l'idée après arriver à un certain âge, c'est où est-ce que tu rencontres des gens, parce que c'est ça qui est compliqué, oui. Je pense. Et pour moi, les applis de rencontre, alors si t'as pas l'idée naturelle de dire je vais aller en boîte. Pour rencontrer des meufs, et je comprends très bien que c'est compliqué.
C'est pas le meilleur endroit pour tout le monde pour rencontrer des meufs. Ouais.
T'as ce truc-là aujourd'hui qui est génial et qui permet simplement de faire des, enfin, voilà, de faire des rencontres en fait. T'as jamais testé ?
Non, c'est, y a un côté qui me plaît pas dedans. Moi, déjà, surtout mythique, c'est t'es jugé sur photo. C'est voilà, c'est hop, je like, je sais. On va dire que si c'est pour avoir une relation, moi je suis plus à l'ancienne quoi.
Bah en fait, je sais même pas si t'es frustré, tu vois, de pas avoir de relation, parce qu'on est là à essayer de te dire mais si tu veux tu peux, et si ça se trouve t'es là, bon ça va.
J'étais frustré jeune dessus jusqu'à pendant l'adolescence au sens large du terme. Bon bah, à un moment où derrière il y a le porno, c'est cool.
Si t'es content comme ça, tant mieux.
Et voilà, c'est... J'ai pas non plus complètement fait... Ouais, bah, les femmes, je sortirai jamais avec, mais... Le côté forcer la chose, ça m'intéresse pas, quoi.
Oui, c'est très entendable.
Carrément.
Très compréhensible.
Oui. Est-ce qu'on passe à l'avant-dernière question ? La question qui fâche.
Hein ?
Comment va ta bite, Anthony ?
Alors, comme beaucoup, je pense, je l'aimerais plus grande.
Ah ? Bah écoute, en tout cas, parmi nos invités, c'est rare hein, qu'on ait...
Oui, il y en a beaucoup qui ont dit qu'elle était énorme.
Non, il y en a deux qui ont dit qu'elle était... Alors, on a eu un très belle bite, William Régeau. Un énorme tub, Thomas O'Brien, et un « Mon pénis est trop épais, ma bite est trop épaisse pour les sodomies, le pérave qu'on embrasse. »
Il n'a pas, pas dit qu'elle était grosse, il a dit, enfin, il n'a pas dit qu'elle était épaisse. Grosse, elle a dit qu'elle était épaisse, ce qui veut strictement rien dire, c'est-à-dire qu'elle peut éventuellement faire
petite canette.
2 cm.
Donc bref, tout ça pour dire que c'est pas une majorité des invités qui ont dit « Moi, j'adore ma grosse tub. » Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de... En fait, on n'a pas tellement parlé taille au final.
Voilà. Donc, après, il y a... Après, c'est un truc très con. Voilà, même moi, je sais que c'est très con, mais il y a un peu un lien qui se fait entre la taille de la bite et la confiance en soi. C'est un peu un côté où, ouais, bah, si j'en aurais une plus grosse, j'aurais plus de confiance en moi. Ce qui est complètement con. Mais voilà.
Ok, oui, tu sais que ça n'a pas trop de sens.
Sais que ça n'a pas trop de sens, mais derrière.
Ça vient d'où, tu penses, cette idée-là? Ça ne vient pas de nulle part. Tu ne l'as pas inventé, c'est faux.
C'est toi, tu l'as inventé.
Après, oui, ben voilà.
Ça vient pas du porno, tu penses aussi, où les mecs ils ont une tub énorme et des gros muscles, ils sont là, oui les meufs. Sinon, je vois pas trop en fait d'où, à part le porno.
Je pense que ça existait avant le porno mainstream, ça existait avant YouPorn, tu vois, ce complexe. Bah toi-même dans ta génération de magazines cachés sous le lit, je pense que ça existait déjà.
Moi, j'avais Canal Plus, d'accord, calme-toi.
Oui, un petit bourgeois qui a le canal. Non, mais je sais que... Je pense qu'il y a toujours eu un lien entre... Faudrait demander à Olivia Gazalet, auteur du Mythe de la virilité. Je pense qu'il y a toujours eu un lien entre la taille de la tub et la personnalité et la masculinité. Mais il me semble que, par exemple, dans la Grèce antique, les gros pénis, c'était vulgaire et c'était pas du tout désirable d'avoir un gros pénis parce que c'était un truc d'animal, un peu. Ça te ramenait un côté animal. Alors on a switché de l'autre côté du spectre.
Les statues grecques, elles ont toutes plutôt des petites bites, quoi.
Tout petits zizi. Donc je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais je pense que ça date d'avant.
Je pense que ça date d'avant. Bon, après, oui, je pense que le porno joue aussi dedans. Mais voilà, après, voilà, on ne sait pas toujours d'où viennent nos idées très connes.
Mais comment tu... Alors c'est une question qui me perturbe toujours, c'est autant pour les filles qui complexent sur la taille de leur sein, souvent tu vois les seins des gens, enfin tu devines en tout cas, tu sais à peu près où tu te places par rapport aux autres femmes de ta vie, tu sais si t'es plutôt moyenne haute, moyenne basse, au milieu, tout ça. Comment tu fais quand t'es un mec hétéro pour savoir où se place ta bite dans la moyenne, enfin à part aller regarder taille moyenne de la bite en France et mesurer, tu vois, parce que à part le porno, enfin j'imagine que t'en vois pas si souvent des tubs...
En érection en plus, hein, parce que...
Oui, il y a au repos et en érection, ce qui parfois n'a rien à voir. Grosse surprise. Donc c'est marrant que ça... Je me demande d'où tu... Où est-ce que tu places... Il faudrait qu'elle soit plus grande dans ta tête, tu vois. Alors que si ça se trouve, t'es dans la moyenne haute et tu le sais pas.
Il me regarde désespéré. Fab, aide-moi.
Je ne saurais pas quoi répondre à ça. Je pense même pas que c'est une question de moyenne, c'est une question de...
Tu te dis que si t'avais 5 cm de plus de bite, je sais pas, tu te dirais, ok, en fait, j'aurais une confiance en moi qui me permettrait de pouvoir aller aborder des filles, ou... Tu crois?
Ouais, je pense qu'il y a un peu ça, mais je... On va dire que ça fait partie des choses qui sont intégrées tellement tôt, dès l'adolescence, que, voilà, après, toutes les expressions sur le fait à poser ses couilles sur la table, en avoir une grosse, ça joue sur le fait que ben, tu te dis que bon, c'est quand même bien d'en avoir plus grande, quoi. Et, oui, après, je pense que le fait que ce soit lié avec le problème de confiance en soi... Ben, ceux qui n'ont pas de problème de confiance en soi, ils ne vont pas lier ça ensemble. Mais voilà, il y a le côté où la confiance en soi, ça fait partie des attributs virils. Et donc, tu ramènes ça à ce qui est de plus viril de façon primaire.
Après, c'est bizarre parce que c'est vraiment un truc sur lequel tu n'as pas de... Bah, t'as pas de possibilité de l'augmenter, quoi, sauf d'acheter un truc sur internet pour pas vite, là.
Enlarge your penis. Mais ceci... En vrai, il y a des opérations, mais c'est compliqué et c'est pas. C'est,
ouais,
c'est de la triche.
Je m'en sers.
Ce que je voulais dire, c'est que t'aurais très bien pu te dire, ok, en fait, je vais me mettre à la muscu. Enfin, tu vois, il y a des mecs qui font ça, en fait, pour. Ouais. C'est du travail aussi.
C'est du travail.
On en revient à une notion d'effort.
Non, puis ben après, je pense qu'il y a aussi le côté où, voilà, justement parce que c'est une chose qu'on contrôle pas, c'est plus facile de rejeter la faute dessus.
T'as été fort, mec.
Il est fort. J'ai une autre avant-dernière question, car je suis comme ça. J'ai oublié de te demander tout à l'heure, j'y ai pensé... Oui, tout à l'heure, en te disant, tu vois pas souvent de bites dans ta vie, je sais pas pourquoi, ça m'y a fait penser. Est-ce que t'as des... Du coup, t'as toujours une bande de potes, enfin, t'as quelques potes plutôt mecs, si j'ai bien compris, à l'heure actuelle. T'en as toujours. Est-ce que tu penses que vous avez des relations cool? Parce qu'il y a plusieurs invités qui nous ont dit qu'en vrai, avec leurs potes, c'était pas toujours le royaume de la bienveillance et tout. Et du coup, je me demande si tu penses que c'est chouette avec tes potes.
Dans l'ensemble, oui. Il y a certaines histoires que... Oui, alors la masturbation entre potes, hein, j'ai fait aussi.
Ok. Oui. Heureusement que j'ai demandé.
Chacun regardait dans une direction différente. Et c'était le premier qu'on voyait qui avait gagné.
Avec, ok. Alors que c'est bizarre vraiment.
Ça n'arrêtera jamais de me faire.
Ah, le côté performance à tout prix.
Ce concours de course, alors que l'objectif normalement est de faire en sorte de rester le plus longtemps possible. Mais bon.
Ah, généralement, une fois que tu commences ta vie sexuelle, être le premier à jouir, c'est pas forcément valorisant, mais quand c'est entre mecs hétéros, car ce n'est pas gay.
Oui, voilà, quand c'est entre mecs hétéros, il y a le côté ah, tiens, je me suis donné plus à fond que toi, j'ai été plus rapide, je suis plus performant.
Je juge pas.
Et donc, t'es toujours pote avec les potes de tes branlettes entre potes ou c'est d'autres potes?
Oui, bon, c'était en fait en particulier un pote, toujours pote avec. Oui, bah, j'ai toujours les mêmes potes que depuis le collège, lycée.
Ok.
Et bon, il y en a quelques-uns qui sont intégrés par au-dessus, pote de pote, après. Mais... Donc.
Et vous êtes, ouais, justement, vous êtes sympa entre vous? T'as la sensation que c'est un groupe où vous prenez un peu soin de vous au sein du groupe? Ou alors ça se bolosse un peu, tu sais, t'avais écouté
il y en a qui a une tendance à bolosser pour quand il est bourré, pour évacuer toute la frustration de boulot, tout ça. Alors, il devient super chiant. Et sinon, non, il n'y a pas le côté bolossage, mais le côté bienveillant non plus. Voilà, c'est Il y a le côté, on s'envoie des vannes à la gueule tout le temps, quoi.
Vous parlez pas entre vous de vos prises de tête?
Je sais que beaucoup... Alors, étrangement, je ne sais pas pourquoi, moi, je n'en parle jamais, mais beaucoup de monde m'en parle.
Ah.
Je sais pas, j'ai... Alors que, voilà, c'est... j'ai rien à leur dire. Voilà, c'est le mec qui me raconte tous les problèmes de ça. T'es derrière. Oui, c'est compliqué, mais bon. Il n'y a rien à savoir dire, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de monde me trouve comme étant un bon confident, alors que.
Peut-être que ça vaudrait le coup de demander au prochain qui te fait le coup de genre, l'écouter poliment et tout, et à la fin de dire juste une question, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu es venu me le raconter à moi, tu vois, sans lui dire. Pourquoi t'es venu me faire chier avec tes histoires? T'aurais pu aller faire chier quelqu'un d'autre. Mais ça pourrait être intéressant de. Comprendre ce qui fait que bah, c'est toi qui apparemment est une bonne oreille. Alors peut-être que t'es, voilà, comme tu dis, t'es un peu timide, t'es un peu discret, donc ils se disent, bon, lui c'est pas une grande gueule, il doit savoir écouter, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais c'est intéressant.
Ouais, bah, je pense que c'est ça qui joue le plus, quoi. C'est le côté... Voilà, c'est... Bon, évidemment, les confiés du genre, il y a toujours histoire d'alcool ou de drogue derrière. Et bon, c'est beaucoup de monde me conseille. J'ai l'impression que beaucoup de monde me considère comme étant une oreille à l'écoute. Alors, peut-être parce que derrière, j'évite beaucoup les jugements ou j'essaie de donner des conseils parce que bon, en tant qu'homme, hein, c'est ce que l'on. Il y a toujours le oui, mais si tu me parles de tes problèmes, dis-moi ce que je peux faire. C'est le côté où juste écouter, moi c'est, je trouve ça c'est pas mais ça c'est
je trouve que ça sert un peu à rien, quoi, de
ben, ça fait du bien à la, ça peut faire du bien à la personne qui balance, mais toi tu sers à rien dans l'histoire, quoi.
Comment tu disais tout à l'heure que tu avais commencé par être féministe avant de devenir, comme tu te décris, anti-féministe.
Comment
t'en es venu à devenir féministe? Mais... c'était, t'as eu un déclic un jour ou
Non, bah après c'est, ça vient beaucoup de l'éducation. C'est au départ, voilà, tu crois c'est un peu la, c'est un peu la, la position de base quand t'es un peu de gauche, quoi. C'est l'égalité, tout le monde doit être traité pareil. C'est, et je pense que ça vient beaucoup de mon éducation d'être féministe. Le côté un peu petit bourgeois. Et bon, disons que voilà, c'est un peu la chose qui vient de base. Et, tant que tu creuses pas trop dedans, il n'y a pas de raison d'être contre. C'est, tant que tu ne tombes pas, tant que tu tombes pas sur des hystériques qui font anti-homme, il n'y a vraiment aucune raison de faire ouais, le féminisme, c'est de la merde. Quoi. Tu fais, ouais, bah non, oui, c'est bien, il faut qu'il y ait l'égalité salariale, il ne faut pas que les gens, que les femmes soient agressées. Oui, c'est tellement basique. Quoi.
Pas pour tout le monde, mais je suis d'accord avec toi que ça paraît être une évidence, mais bon. Et après, oui, on peut avoir des divergences, le mouvement féministe étant pluriel.
Oui, voilà, le mouvement féministe étant pluriel, bah, si tu prends juste la base commune à tout le monde, il n'y a rien à reprocher dedans. Ouais. Si tu fais oui, ok, ouais, oui, très bien.
Je continue à penser que tu n'es pas vraiment anti-féministe, tu sais.
Bah moi non plus, j'ai du mal à... Mais je comprends non, que tu te définisses comme anti-féministe. Simplement, tu te mets dans le même sac de plein d'autres gens qui, à mon avis... Tu sais, c'est toujours ce truc de... Quand tu ne sais pas dans quel camp te définir, tu regardes ceux qui sont avec toi et tu regardes qui ils sont. Et puis tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec eux? Et je pense qu'il y a plein d'antiféministes avec qui tu n'aurais pas du tout envie d'être.
Je pense pas. Si tu es de gauche, ça ne doit pas être trop ta bande préférée.
Ça. Tu vois ce que je veux dire?
Et en même temps, peut-être qu'aussi on s'en fout des étiquettes et que alors. Faire des trucs, c'est mieux que se plier en douce pour trouver le bon terme qui convient. Donc moi, je pense pas vraiment que t'es antiféministe, mais si tu veux continuer à te dire antiféministe parce que tu milites pour que les violences... Enfin, tu milites, en tout cas, tu discutes, tu agis, ce qui pour moi est une forme de militer, puisque tu parles à des gens, pour que les violences sexuelles faites aux hommes soient mieux reconnues, appelle-toi comme tu veux, tu fais quand même quelque chose que je trouve utile. Donc bon, finalement, c'est l'essentiel. Est-ce que t'es prêt pour la dernière question?
Ouais.
Est-ce que tu as beaucoup réfléchi avant?
Ouais, ça a été très dur.
Est-ce que tu as un exemple d'homme réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité?
Alors, je vais être absolument pas original. Est-ce qu'il a déjà été prononcé beaucoup de fois? Mais bon, Terry Crews.
Oui.
Après, c'est pas par rapport à son militantisme, voilà. C'est bon. Par rapport au discours que j'essaie de vendre, par exemple, ça aurait été mieux, j'aurais plutôt sorti. Celui-là qui s'était fait Shia LaBeouf.
Ah oui.
Oui. Voilà.
Par exemple, plus, ça correspond plus à ce que je veux dire, donc le fait.
Parce que Shia LaBeouf a été agressé par, a été violé par une femme. Terry Crews a été agressé sexuellement par un homme, donc déjà on n'est pas sur la même dynamique.
Et après, il y a la dynamique derrière qui a dû se battre contre un backlash horrible.
Oui. Puisque ça n'existe pas, les hommes violés par des femmes, et qu'il avait qu'à dire non, ça aurait été plus simple.
Voilà. Mais non, moi, Terry Crews, c'est plus c'est par rapport à l'image qu'il donne de lui, par rapport au film dans lequel il joue, et en particulier son rôle dans Brooklyn Nine-Nine.
Meilleur rôle.
Voilà, mais il y a tous les bons côtés de la masculinité dedans. Bon, c'est un mec baraqué, donc voilà, il y a l'image, mais après, il est très prévenant auprès de sa famille, de ses enfants. Il y a la relation amicale derrière. Et d'ailleurs, quand j'ai réfléchi au nom, j'ai vu que j'avais tendance à trouver des noms qui allaient en groupe. Genre, quand j'étais gamin, mon modèle masculin, c'était Bud Spencer. Quand je pesais 20 kilos, je voulais ressembler à Bud Spencer.
C'est qui? J'ai pas la ref. Je suis né en 91.
Alors, c'est un qui était en duo avec un autre. Il était assez gros et il passait ses films à foutre des baffes.
Voilà.
Okay. Un héros de films d'action
C'était des films d'action. Ils ont fait des westerns aussi.
On va dire des comédies d'action.
Voilà. Ok. Pas des gros trucs sérieux, plutôt
non,
de la rigolance.
C'était plutôt de la rigolade. Et attends, comment il s'appelait son... C'était un tout maigre, tout blond. Et donc Bud Spencer, lui, est un gros barbu brun.
Voilà. J'ai quasiment réussi à avoir le physique, sauf pour les bras.
Ça se travaille. Et un tout petit effort à la
Terrence scène. Hill, voilà.
Ok, bah, les noms me disent quelque chose, mais je savais pas que
c'était. C'était un énorme, c'était un des tout premiers fameux duos des buddy movies, tu vois quoi. Voilà quoi, c'était un peu ça. Avant Jackie Chan et comment il s'appelle?
Chris Tucker.
Voilà.
Oui. Ruby Rhodes. Donc tu dis qu'en fait, pour tes exemples de masculinité positive, c'est souvent des mecs qui sont inscrits dans une dynamique de groupe que tu trouves positive, c'est ça?
C'est en fait, c'est une dynamique de meilleurs potes. Genre, bah, donc il y a eu lui, après il y a par exemple un modèle, après c'est pas pour physique parce qu'il est sacrément beau gosse, je retiens jamais son nom, mais le pote à Joanne Hill.
Lequel
Channing Tatum.
Voilà.
Ah, oh, qu'est-ce qu'on l'aime, Channing Tatum.
Dans 21 Jump Street.
Lui, voilà, je dis que oui, il est beau gosse. Mais voilà. C'est le beau gosse par excellence.
T'as vu Magic Mike ou pas?
Non, je ne l'ai pas vu. Hein.
Ah bah alors.
Non, j'ai posé le commentaire. C'est non, mon orientation sexuelle risque d'en prendre un coup si je vois voilà. Ça.
Tu te poseras des questions, tu sais, tu reconsidéreras peut-être des choses.
Écoute, oui.
Faut pas mourir bête. Ça va, toi, tu l'as regardé. Mais,
j'ai déjà eu ma réponse là-dessus.
Comment ça?
Quoi?
Oui, c'est une histoire que j'avais oublié de dire avant. Enfin, peut-être la remettre avant. C'était donc à une époque où j'étais très très en galère financièrement. Tu sais, j'ai été postulé pour un emploi auprès d'un patron gay qui m'a très fortement fait comprendre que si je voulais le taf, fallait coucher. Voilà, c'était une question de voilà, c'est ça où il y avait un gros risque de se retrouver à la rue derrière. Donc j'ai accepté. J'ai trouvé voilà, c'est pas une expérience que j'aime parler quoi. Mais finalement, parce qu'en fait, c'est des trois que j'ai à dire, c'est celle qui me pose le plus de problèmes. Voilà, c'est ça le côté. C'était voilà, j'ai bien constaté que c'était pas mon orientation sexuelle. Et derrière, il y a aussi le côté où là, c'était vraiment un rapport de domination. C'était vraiment voilà, tu t'es renié pour un taf qu'au final t'as pas eu. Donc je me suis bien fait enculer aux deux sens du terme. Et voilà.
Mais mec, on était en train de parler de Bud Spencer et tout.
Il nous fait une Benjamin Nover voilà. Là qui nous cale à un quart d'heure de la fin. Oui, et puis bon, j'ai fait de la tentative de suicide et tout. En mode, ça va passer comme ça.
Ouais, voilà. Donc, revenons, voilà. Et c'est.
Attends, on peut pas revenir tout de suite sur Channing Tatum, ok? On va prendre deux secondes. Ok, désolé que ça te soit arrivé
bah oui.
Déjà. Et bah du coup, est-ce que quand tu parles de cette expérience aussi, les retours sont les mêmes que quand tu parles de ce que t'as...
J'en ai jamais parlé. Et celle-là, c'est vraiment le côté, voilà. Les deux autres, tu peux pas me sentir responsable de ce qui m'est arrivé. Bon, le fait d'être bourré et tout, à la rigueur, mais là... Ben c'est le côté où tu te sens fautif de ce que t'as fait plus voilà petit Roland d'homophobie derrière hein. Mais voilà c'est la seule dans laquelle je repense à faire ah non ça j'aurais pas dû faire quoi.
Ouais, mais en même temps, tu le dis toi-même, il était en position de domination, donc c'est pas comme si t'avais fait un choix éclairé. C'est pas comme si t'as, je sais pas, t'es au bar, il y a un mec qui te drague, tu te dis, ok, vas-y, on tente. Et le lendemain, t'es là, c'était vraiment pas mon truc. T'étais pas dans une. En fait, s'il y a une dynamique de pouvoir aussi forte et que tu dis que tu risquais de te retrouver à la rue et tout. Enfin, en fait, t'es pas censé dire aux gens, je te file le taf si tu couches avec moi, ça ne se fait pas,
après,
c'est illégal, voilà, merci.
Il ne l'a pas dit textuellement, mais c'était très clair tout le long, quoi.
Et t'as pensé à porter plainte ou à faire quelque chose?
Non plus. Non.
Ok.
Et donc ça, t'en parles pas sur les cercles MRA non plus?
Non.
Ok. Bah merci de nous l'avoir confié.
Bah oui. Du coup. Heureusement qu'on est arrivé à Channing Tatum.
Heureusement qu'il y a Channing Tatum.
Donc on en
Tatum.
Était au beaucoup de Channing Tatum.
On en était au fait que oui, t'aimes bien les. j'ai l'impression que pour toi, ce qui fait la masculinité positive, c'est en partie des relations masculines positives, des relations d'homme à homme qui sont positives et bienveillantes, quoi.
Oui. Après, il y a aussi quand j'ai dû réfléchir à la question, j'ai réalisé à quel point c'est difficile d'assimiler masculinité et positif. Après, voilà, c'est il y a quand même un côté, voilà, c'est quand t'es habitué au discours, le côté dominateur de la masculinité oppressif, t'as du mal à voir à trouver des modèles positifs derrière, ça devrait plus ressembler à ça, et voilà.
C'est donc, bien pour ça qu'on pose la question à chaque épisode, et c'est pour ça que c'est aussi dur de trouver la réponse, je pense, pour plein d'invités, c'est que c'est pas un truc auquel on réfléchit et qui est très mis en avant, quoi. Ouais. Et façon positive de vivre.
Bon, après, il y a le côté où quand tu dis masculinité, tu penses surtout côté extérieur, parce que voilà, les trois exemples que je donnais, il y a le physique qui joue beaucoup. Et je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais c'est très difficile d'associer le terme masculinité à quelque chose qui n'est pas physique.
Tu veux dire que d'associer le terme de masculinité à plutôt à de l'émotionnel, c'est ça, ou à du c'est à ça que tu penses?
Ouais, voilà, bah,
ou à de l'intelligence, ou
quand tu dis masculinité, c'est un peu comme quand tu j'ai l'impression comme quand tu dis féminité, c'est un très fort côté apparence, c'est être un homme, avoir du muscle, être beau.
Oui, c'est vrai que quand tu penses féminité, tu penses pas forcément Josiane Balasco, pourtant c'est une femme brillante et de talent. Tu vas plus penser à des Brigitte Bardot à l'époque, ou des corps comme ça, donc je comprends que si tu penses masculinité positive, t'as plus un Channing Tatum qu'un Jonah Hill, tu vois, spontanément, qui arrive. Même s'il me semble que Jonah Hill a fondu, donc peut-être qu'il va se muscler.
Oh, c'est dommage.
Non, il était déjà beau gosse, c'est n'importe quoi. C'était lui qui faisait toute une... Ah non, c'était Seth Rogen qui disait qu'il faisait toute une tirade sur le fait qu'il avait la sensation d'être devenu moins drôle. Enfin, en tout cas, que les gens le percevaient comme moins drôle depuis qu'il avait fondu. Ou c'était Jonah Hill, je ne sais plus.
Je pense que c'est Jonah Hill, parce que Seth Rogen, il n'a pas de temps fondu. Il est toujours genre, je fume des joints, je mange des burgers, je ris fort, je suis content. Mais oui, Jonah Hill, je pense que c'est... Bah, c'est... Roman Frécinet qui disait heureusement que je suis pas beau, comme ça je suis devenu drôle, ou un truc comme ça. Enfin, je suis devenu drôle parce que de toute façon j'allais pas être beau, donc ça va perdre.
Pas le choix.
Ce qui est con, parce qu'en plus il est beau, mais bon, je lui ai dit, il m'a pas cru. Ouais. Merci beaucoup d'être venu.
Bah oui, c'est merci.
C'est un super épisode très riche et tu t'es vraiment beaucoup confié, donc un
beaucoup
immense merci.
Beaucoup dans le désordre.
C'est pas grave, il n'y a pas d'ordre pour raconter.
Il n'y a pas de bon ordre.
Oui, tout va bien. Et je vais pas, je pense pas que je vais cutter. Ton expérience avec un homme de Channing Tatum pour la remettre au début. Je pense que c'est intéressant qu'elle arrive qu'à la fin, tu vois. L'ordre a une importance.
C'est clair.
Merci Fab.
Ben merci Mimi.
Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire, et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store, par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé, plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.